Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui, d'accord. Donc nous sommes ici pour la conférence sur les pouvoirs et conflits au cœur de la fantaisie. Comme vous voyez... Pardon? Ah, c'est ce que je demandais en fait. Si, il marche. Maintenant il marche. Alors, c'est bon? Donc, la conférence sur pouvoir et conflits au cœur de la fantaisie. Donc, il fait très très chaud, donc on va essayer de laisser les conflits à l'extérieur de la salle, parce que là, vraiment, voilà, ça va être sinon compliqué. Donc, je vais vous présenter nos intervenants. Paul Béorn, tout à ma droite, pour les deux visages, Calame, paru chez Bragelonne. Ensuite, à côté, David Brie, pour Que passe l'hiver, paru chez L'Homme sans nom. Camille Le Boulanger pour Bertram le Baladin, paru chez Critique, et Aliette de Baudard pour La chute de la maison aux flèches d'argent, paru chez Fleuve Édition. Alors, je vous propose qu'on commence un tout petit peu par la question des types en fait, de monde dans lequel s'exerce ce pouvoir, pour comprendre un petit peu pourquoi ce pouvoir existe de cette façon-là. On a chez plusieurs de nos auteurs un monde médiéval fantastique, on va dire, sauf chez Aliette de Baudard. Alors, je vais vous demander de nous parler justement du type de pouvoir, David Brie, Paul Béorn et Camille Le Boulanger. Chez vous, le pouvoir est plutôt royal ou noble, disons, et il est contesté par des personnes qui sont souvent un petit peu des petites gens, ou en tout cas des gens qui ne sont pas vraiment liés au pouvoir. Par contre, chez Aliette de Baudard, c'est un petit peu plus difficile déjà, je trouve, de rattacher votre livre à un genre précis. Pour moi, j'hésite un peu entre la fantaisie théologique, on va dire, avec des anges qui apparaissent sur Terre, qui sont des déchus, en provenance de la cité céleste, et de la science-fiction post-apocalyptique, puisque ça se passe aussi à Paris, après un conflit, en fait. Alors, je vais commencer par vous, Aliette, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore un pouvoir clair depuis la chute des maisons? Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la guerre qui a eu lieu?
Oui, tout à fait. Donc, la chute de la maison aux flèches d'argent se passe dans un Paris, ambiance belle époque, mais complètement dévastée par une guerre qui a laissé la ville complètement exsangue. Et donc, le pouvoir était avant la guerre très clairement tenu par des factions magiques qui s'appellent les maisons et qui en fait rassemblent sous leur aile des déchus, ce qui leur permet d'avoir de la magie qui est une source de pouvoir principal. Après la guerre, comme on est plutôt dans un univers effectivement qui tire ses inspirations de la post-apocalypse, on passe plutôt en fait sur des ressources et qui contrôle les ressources, donc qui contrôle les flux de nourriture, les flux simplement d'eau propre, vu que toute l'eau de la Seine est contaminée par de la pollution magique. Et encore un peu de la magie, parce que c'est quand même la magie qui permet de garder les adversaires, on va dire, suffisamment loin de soi et de ne pas se faire envahir. Mais après, on passe vraiment dans une optique assez, on va dire, guerre froide, dans le sens que les grandes maisons se regardent en chien de faïence, sans trop oser de nouveau déclencher un conflit qui va dévaster la ville, mais aimeraient quand même en profiter pour marquer quelques points vis-à-vis de leurs voisins. Et donc, il y a des espèces d'intrigues de pouvoir qui se jouent entre maisons, qui sont des intrigues de façade, beaucoup de bluffs, des trahisons, etc. Et puis, à côté de ça, il n'y a pas... pour le moment, dans la chute de la maison aux flèches d'argent, ça change dans les livres d'après, mais il n'y a pas vraiment de pouvoir, on va dire, contestataire. Tu as mentionné les petites gens. Les petites gens, pour le moment, sont vraiment très occupés à essayer de survivre et sont vraiment coupés de tout ce qui leur permettrait de venir challenger quelque part la domination des maisons.
Et chez vous, le pouvoir suprême, qui est Dieu, est complètement absent, en fait, finalement.
Oui, en fait, parce que je voulais, pour le coup, pas vraiment écrire un roman théologique, et donc si je mettais une présence explicite de Dieu, ça commençait à soulever des choses où j'étais pas vraiment prêt à tirer les ramifications. Donc, quelque part, c'est aussi un miroir de la chute des anges, hein, de même que pour eux, Dieu s'efface complètement et ils deviennent amnésiques, en fait, en chutant, donc ils se souviennent pas de pourquoi ils sont là. On retrouve évidemment des gens qui ont la foi, des gens qui ont des religions qui sont d'ailleurs pas forcément la religion catholique. On a quelqu'un qui est plutôt de croyance, on va dire confucianiste, bouddhiste, taoïste, donc qui est Philippe, qui est d'origine vietnamienne. Mais on ne va pas retrouver non de pouvoir suprême. Je ne voulais vraiment pas justement avoir cette espèce de hiérarchie de manière explicite, parce que je voulais faire quelque chose qui était beaucoup plus trouble que ça. Et ça me paraissait quand même plus intéressant d'avoir quelque chose où... c'était des pouvoirs qui étaient assez changeants. Donc la maison aux flèches d'argent, justement, était supposée être la maison dominante de Paris avant la guerre. Et depuis la guerre, bah, elle est sur un espèce de déclin gentillet que jusqu'ici, personne n'a vraiment contesté. Et le roman tout entier est ce qui se passe quand les maisons se rendent compte qu'en fait, ce pouvoir qu'ils ont toujours cru, qui était au-dessus d'eux quelque part, n'est qu'une façade. Et que derrière, c'est creux, et donc ils peuvent en profiter.
D'accord, merci. Camille Le Boulanger, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre personnage principal et du monde dans lequel il est, Beltrame, s'il vous plaît.
Ouais. Alors, donc Beltrame le Baladin, ça se passe effectivement dans un univers plus médiéval que médiéval fantastique, en tout cas, où on a donc bien une société féodale. Et pour la question du pouvoir dans Beltrame le Baladin a deux aspects. On a deux endroits, deux villes, deux pouvoirs qui s'affrontent. On a une ville qui est la ville de Strid et qui est un pouvoir, on va dire, séculier, c'est-à-dire très économique, et une ville qui s'est construite sur un droit de passage et dont la puissance finalement se fonde sur le commerce et l'argent, sur la taxe, le droit de passage. Et en face, un endroit qui s'appelle la Citadelle, qui va être l'endroit où siège la guilde des musiciens, qui sont chargés d'être envoyé aux quatre coins du pays pour rassembler l'information, les ragots, les rumeurs, en fait, et construire toute cette transmission orale qui est le cœur du bouquin, puisque dans l'univers de Beltrame le Baladin, on a perdu le secret de fabrication du papier, donc toute l'information se passe par là. Donc on a vraiment, finalement, si on interroge la question du pouvoir, on a une confrontation entre le pouvoir économique, vraiment politique au sens économique, et un pouvoir extrêmement symbolique, qui va être celui de la gestion de la capacité à créer l'information. Et finalement, le personnage principal du bouquin, qui s'appelle Beltrame, qui est un musicien de la guilde, lui, qui est un, on va dire, entre guillemets, un électron libre, par ce qui lui arrive, par le fait qu'on lui vole son instrument, etc., qui déclenche l'intrigue du livre, lui va se retrouver, en fait, pris sans le savoir, dans cette rivalité politique et cette rivalité entre ces deux genres de pouvoir, quoi. Sans révéler l'intrigue, il y a des éléments là-dessus, donc il y a vraiment cette contestation cette confrontation, pardon, entre le pouvoir, un pouvoir très concret, vraiment politique, économique, militaire, et un pouvoir de symbole et culturel, j'ai envie de dire.
Paul Béorn, dans Les Deux Visages, ça commence par une défaite. On voit une bataille, en fait, et elle est très très vite terminée. Elle se termine par l'emprisonnement de la narratrice, qui va être Maora. Et on va en fait revenir un petit peu en arrière pour comprendre un peu d'où elle vient, pourquoi elle fait partie de cette rébellion. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du coup de la structure de pouvoir qu'il y a dans Calame, par rapport à Maora, on va dire, dans un premier temps?
Oui, je vais essayer. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de retournement de situation, et il va falloir que j'essaie de ne pas faire de divulgation, comment disent les Québécois, de divulgâcher.
Voilà.
Donc on a une structure politique assez classique, médiévale, un roi à la tête d'un pays, jusque-là rien d'extraordinaire, sauf que ce roi a des pouvoirs, et tous les rois ont toujours eu des pouvoirs magiques extraordinaires. On l'appelle le roi lumière, parce qu'il est capable d'irradier de lumière et de feu quand il est en colère ou contre ses ennemis. D'ailleurs, quand on va le rencontrer, on vous donne un bandeau à mettre sur les yeux, voire des vêtements de protection contre le feu, parce que parfois il s'énerve un peu sans le vouloir, et ça peut tourner très mal pour les visiteurs. Et on a ce roi qui commence à prendre des décisions étranges, voire absurdes, en décrétant notamment que les femmes n'ont pas d'âme, et donc qu'on peut les acheter, les vendre. Et donc on a de l'autre côté de ce pouvoir... des petits magiciens de campagne qui ont des petits pouvoirs, et on a des gens que ces décisions, évidemment, concernent de très près. Et donc on va suivre cette jeune femme, Maora, et celui qui va devenir son maître, puisque ce sera sa domestique, Darandal. Et ces deux-là deviendront les fers de lance d'une rébellion qui va embraser tout le pays. Mais ces gens-là, tout simplement, c'est des gens normaux d'un petit village, hein, qui n'ont rien d'extraordinaire, et qui sont simplement touchés par les décisions de ce pouvoir qui est très lointain, qu'ils ne connaissent pas, qui est à des centaines de kilomètres, et qui va ruiner leur vie. Donc, assez classiquement, ils vont d'abord, sans vraiment vouloir se rebeller, ils vont d'abord essayer de demander justice, ce qui ne va pas leur être accordé, et donc ils vont entrer dans une rébellion armée sans vraiment le vouloir, d'ailleurs, et se retrouver à incarner un contre-pouvoir sans vraiment l'avoir voulu, ce qui est celui de tous ces gens qui sont contre cette loi et contre ce roi, et qui eux-mêmes deviennent une forme de pouvoir.
Merci. David Brie, je termine par vous, parce qu'en fait, les personnages font partie d'un clan, et on a l'impression qu'eux détiennent déjà une sorte de pouvoir par rapport aux autres personnages des romans. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des deux frères, Ewald et Stig, dans Que passe l'hiver ?
Effectivement, le pouvoir est géré dans Que passe l'hiver, est traité avec deux aspects, puis après je vais venir aux deux frères. Il y a l'aspect des clans. La population est divisée en quatre clans, et les clans sont menés par ceux qui ont le pouvoir de chaque clan. C'est un pouvoir qui est au niveau du sang, donc certains ont le pouvoir de faire de la magie, d'autres peuvent se transformer en animal, comme les deux frères dont je vais parler juste après. Certains ont le pouvoir de voyager avec la nuit, ils passent d'un coin d'ombre à un autre, et le dernier, lui, son pouvoir, c'est de deviner les fils du destin des hommes. Les deux héros, le héros principal Stig et son frère, appartiennent au clan de ceux qui se transforment en animaux. Effectivement, la question du pouvoir est forte, parce que ces deux frères ont le même pouvoir, ont le même père. L'un est l'aîné, c'est Ewald, et son cadet est Stig. Dans le monde de Que passe l'hiver, le pouvoir ne se transmet pas forcément de père en fils ou de père en aîné. C'est un pouvoir qui est contestable. C'est un peu à l'image des tribus celtes, où en fait le pouvoir appartient en théorie au plus fort ou au plus sage. Donc en théorie, une assemblée décide de qui aura le pouvoir après la mort du chef. Il se trouve que dans le cas d'Ewald et de Stig, Stig est le fils cadet, et il est affublé d'un pied beau, c'est un pied tordu. Ce qui fait qu'il n'est pas un guerrier comme son père, qu'il n'est pas fort comme son père, qu'il n'est pas doué et aussi fort et aussi musclé que son père. Son père, de fait, le méprise complètement et a déjà décidé, alors qu'il n'en a pas le droit normalement, que c'est son fils aîné, Ewald, qui lui succéderait. Et donc il lui transmet le pouvoir, alors qu'en théorie il n'a pas ce droit-là. Et du coup, cette histoire, au-delà de traiter un peu de pouvoir et de beaucoup de conflits, parce qu'il y a des conflits familiaux, amoureux et plein d'autres, on en parlera peut-être après, traite aussi de comment, quand on est un fils cadet, affublé d'un pied beau, maltraité, entre guillemets, par son père, en tout cas dénigré et méprisé par son père, et avec un frère aîné qui est tout ce que le père imaginait, grand, beau, fort, et en plus il est gentil, comment est-ce qu'on survit, comment est-ce qu'on grandit avec ça ? Mais au final, c'est une histoire. Stig, c'est un personnage qui aurait pu être brisé par ce désamour et par cette injustice profonde de la transmission du pouvoir. Et forcément, il s'est posé des questions, et il le dit dans le roman. Et sauf qu'au lieu de prendre le mauvais côté de la chose, il décide d'en être transformé, de garder l'amour qu'il a pour son frère, et de faire de toutes ses faiblesses, de faire un atout. Alors, c'est pas facile, et il doute souvent, mais en tout cas, il essaye.
Et au début du roman, il se dirige vers la fête du solstice, qui est un événement très important pour les clans. Et c'est la première fois que Stig participe à cette fête. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, nous dire ce qui s'y passe en fait à cette fête ?
Alors cette fête de solstice est un événement, c'est l'événement le plus important du monde de la clairière. Comme je le disais, la clairière est un monde où vivent quatre clans. Les clans ne se mélangent jamais, ils sont dirigés par le ou la chef de clan. Il existe un roi qui règne sur la clairière, et pour le coup, le roi incarne, autant les seigneurs incarnent le pouvoir temporel, c'est eux qui donnent la loi, c'est eux qui décident. Le roi de la clairière, il est mi-homme, mi-dieu. C'est le fils du dieu de la clairière et le fils d'une mortelle. Il incarne, lui, le pouvoir spirituel. Et en tout cas, c'est lui qui porte le titre de roi. Et tous les ans, chaque clan se retrouve au cœur de la clairière, auprès du roi, pour renouveler son serment d'allégeance pour une année. Donc c'est une allégeance qui se renouvelle. Et c'est un moment de fête, c'est aussi un moment important, c'est un moment aussi d'histoire. Quand j'ai écrit ce roman, j'ai toujours été fasciné par la tradition orale, par ces conteurs qui viennent et qui racontent de grandes histoires, de grandes épopées. Cette fête du solstice est donc le moment où on renouvelle le pouvoir, mais c'est aussi le moment où on rappelle l'histoire, on rappelle d'où on vient, et on poursuit cette histoire en renouvelant l'allégeance. Et du coup, il y a tout au long du roman le rappel de l'histoire, l'histoire des vieilles légendes du monde, de la création du monde, de comment le dieu de la clairière enfante chaque demi-dieu qui se succède. Et c'est un peu le point d'orgue de la vie de la clairière, et c'est le seul moment où les clans se rencontrent. Et ce solstice-ci, où Stig rêvait d'être depuis longtemps, ne sera malheureusement pas comme les autres.
Merci. Cette question de l'accord est effectivement très intéressante, parce qu'il y a conflit, mais il peut y avoir d'abord accord, et puis l'accord est rompu, et c'est ce qui amène le conflit. J'aurais aimé, s'il vous plaît, Camille Le Boulanger, que vous nous parliez un petit peu de l'accord que passe votre personnage avec un autre, Beltram le Baladin, avec un autre personnage.
Ouais, alors c'est donc ce qui constitue finalement le point de départ du récit, hein, c'est-à-dire que le récit commence avec Bertram le Baladin qui débarque dans une auberge et qui dit « c'est moi Bertram le Baladin, sauf qu'on m'a volé mon instrument ». Voilà. Et il fait la rencontre d'un personnage qui s'appelle Sans Nom, qui est une femme qui a, comme son nom l'indique, pas de nom, parce qu'on lui a volé. En tout cas, elle dit qu'on lui a volé. Et donc elle va passer un marché avec Bertram, qui est un marché symbolique, encore une fois, puisque elle lui dit « Moi, je sais qui a volé ton instrument. Je les ai vus faire. Je peux t'amener, je peux t'aider à récupérer ton instrument et donc à reconstruire finalement ton propre pouvoir, pour le coup, ton propre symbole de ton pouvoir. Par contre, vu que tu es un musicien, vu que ta parole, effectivement, la question du récit que tu évoquais est importante, vu que toi, on t'écoute, vu que toi, ce que tu dis, tout le monde dit que c'est vrai. Une fois que tout le monde croit que c'est vrai, accepte que c'est vrai, la question de la vérité est un peu au cœur du roman aussi. Vu que toi, tu as ce pouvoir-là, quand tu as récupéré ton instrument et donc que tu es à nouveau complet, tu me donneras un nouveau nom. Parce que je ne peux pas, moi, choisir tout seul, toute seule, un nouveau nom. Il faut que ce soit quelqu'un qui me le donne et quelqu'un dont la parole a ce pouvoir-là. Et effectivement, la question du nom et la question de l'identité au sens large sont vraiment au cœur du roman, et la question de la parole et notamment de la musique, quoi.
Aliette de Baudard, il y a aussi un accord qui est passé dans votre texte entre Philippe et Samarielle. Est-ce que vous pouvez nous parler de qui est Philippe, parce que c'est un des personnages les plus importants du texte?
Oui. Alors en fait, je me suis pas mal inspirée pour ce roman bien que l'ambiance soit belle époque, je me suis pas mal inspirée de ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Et donc, parmi les choses qui sont arrivées pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, la France a beaucoup tiré sur des volontaires avec des degrés de consentement plus ou moins élevés suivant les circonstances de ces colonies. Et donc elle a ramené, on connaît bien les tirailleurs sénégalais, mais il y a eu aussi par exemple tout un contingent annamite qui s'est battu pendant la Première Guerre mondiale, et aussi c'était pas vraiment un contingent parce qu'ils ont travaillé dans les usines de munitions pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, une fois que la guerre a été finie, c'était un peu la priorité en bas de la pile de les renvoyer chez eux. Donc vous avez des gens qui sont restés 7, 8, 10 ans, 15 ans, sans vraiment moyen de revenir chez eux. Donc moi, ça m'avait beaucoup frappé, d'une part pour des raisons personnelles, parce que je suis issue de l'immigration vietnamienne, et aussi parce que ça me paraissait être des choses qu'on ne nous apprend pas forcément dans le cadre de l'histoire française. Et donc Philippe, lui, a été pendant la guerre des maisons entre elles, de la même manière que la France avait fait appel à ses colonies. Les maisons ont aussi fait appel aux colonies qu'elles avaient au Maghreb et en Asie. Et donc ils ont ramasser un peu tous les paysans, tous les gens qui avaient l'air un peu paumés dans les campagnes et qui paraissaient pas stricto sensu indispensables. Ils les ont ramenés en France. Et puis après, la cité a été complètement dévastée. Donc ça, là, pour le coup, on les renvoie pas chez eux parce que ça coûte trop cher. On a déjà suffisamment de mal comme ça à communiquer avec les colonies. Donc on a un certain nombre de persos qui se trouvent, pareil, à errer dans Paris. Ce qu'ils ne savent pas, par contre, c'est que Philippe est immortel. Donc les immortels, c'est une notion du taoïsme qui, en fait, consiste à dire que des gens qui des mystiques foncièrement qui donc vont se retirer sur des montagnes, se mettre au fond de la forêt et à force de méditation, de réflexion sur le Dao, d'enseignement des autres éventuellement, mais c'est assez solitaire, vont accéder à une forme d'immortalité au sens que ils ne vieillissent pas, ils ont des pouvoirs magiques. Et donc Philippe est un immortel qui a été remarqué par l'empereur de Jade, donc le chef des immortels, a été dans la cour et puis suite à quelques mésaventures en fait s'est fait virer de la cour et donc s'est retrouvé comme ça à errer dans la campagne vietnamienne et affaibli par quelque part sa propre chute en fait et ramené en France. Et donc évidemment, déjà il essaie de survivre, il essaie de pas trop se faire remarquer parce que la dernière chose qu'il veut c'est qu'on se rende compte qu'il ait des pouvoirs magiques et qu'on se mette de nouveau à les exploiter. Il a une haine et un ressentiment très profond des maisons qui l'ont amené dans cette situation et qui l'ont complètement coupé de là où il veut revenir. Il rêve de revenir à Marseille, de prendre un bateau pour aller en Annam d'où il venait, mais il sait très bien quelque part que c'est un rêve complètement illusoire parce qu'il y a très peu de bateaux qui partent de Marseille et quand ils partent, c'est vraiment pour des choses que les maisons jugent essentielles. Donc il envisage à un moment de éventuellement jurer allégeance à une maison et il se dit mais enfin je refuse, c'est il est quelqu'un qui a des principes très profonds et il refuse de mentir et de à nouveau plier le genou vis-à-vis d'une maison pour avoir ce qu'il veut. Donc et c'est bon, il finit quand même par se faire ramasser par une maison parce que faut bien que l'intrigue commence.
Et donc il est en fait enchaîné vraiment magiquement à la maison aux flèches d'argent au départ.
Oui, tout à fait. En fait, il se fait remarquer. Hein. C'était fatal qu'à un moment ou à un autre, ça arriverait. Il se met dans une situation où sa propre vie et la vie d'amis sont en danger. Et une des maisons leur lance un sort magique. Et plutôt que de mourir et de laisser son ami mourir, et ben, il absorbe la magie. Ce que la maison avait littéralement jamais vu, ça ne devrait pas être possible. Donc, en attendant de savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont récupéré, la maison l'enchaîne physiquement à la maison. Il ne peut pas sortir des frontières de la maison sans avoir une extrême douleur, ce qui leur permet de pouvoir l'étudier à loisir, de lui faire passer des examens, etc. Il a quelque part un petit peu de chance que... Un certain nombre d'autres événements dans la maison font que, tout d'un coup, la curiosité qu'ils ont ramassée dans les grands magasins, dans les rues, passe un peu au second plan parce qu'il y a des intrigues de pouvoir qui recommencent entre les maisons et donc ils le sous-estiment, en fait. C'est juste un anamite, c'est juste un Vietnamien, un colonial. Ouais, il y a peut-être quelque chose, mais ça ne doit pas être grand-chose. C'est quelque chose qui va d'ailleurs revenir assez rapidement leur faire regretter. Quelque part. Et donc, quand il passe le marché avec sa Marielle, en fait, qui vient d'une autre maison que la maison qu'il a enchaînée, bah, c'est globalement « Donne-moi quelque chose pour détruire la maison et en échange, je t'en ferai sortir. » Et lui, ça s'aligne assez bien avec l'opinion qu'il a. De son point de vue, une maison en vaut bien une autre. Il a, alors, décidément, vraiment pas de loyauté pour les gens qui l'ont ramassé dans les rues, qui lui font passer des examens... à répétition en essayant de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir sous la main et qu'ils le traitent finalement comme une chose, hein, comme une commodité de bon, ça va peut-être être utile un jour mais qui le considère comme à peine humain et donc il va s'engager à essayer de détruire la maison à laquelle il est rattaché.
Merci. Paul Béorn, il y a aussi un accord qui est passé entre Mahora et Darendal. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter quand même rapidement Darendal et nous dire, donc, au moment où les hommes du baron viennent pour saisir Mahora, elle se tourne en désespoir de cause vers Darendal. Et quelle est la relation qui va s'instaurer entre eux? Désolée, ça fait beaucoup de questions en lui.
Oui, pour replacer le contexte, le père de Mahora meurt d'un accident de chasse, puisqu'il est garde de chasse, hein. c'est pas un noble. Et à la mort de son père, elle comprend que, puisque les femmes n'ont pas d'âme, sa mère et elle vont appartenir au baron. Et le baron n'est pas connu pour être particulièrement sympathique. Elle n'a pas du tout envie de finir domestique chez ce monsieur. Et donc elle s'enfuit et elle va frapper à la porte de Darendal, qu'elle connaît, en lui suppliant de bien vouloir la racheter comme domestique. Elle est toujours têtue, hein, donc elle est poursuivie par les gardes. Elle frappe à la porte, il la rejette, elle rentre par la porte de derrière, et il la ramène, et finalement elle réussit à le convaincre parce que elle a cette magie, cette affinité avec les animaux, et que lui adore les oiseaux. Et elle a remarqué qu'il avait une volière derrière sa maison, et qu'elle peut l'aider avec ses oiseaux. Et donc elle passe une sorte de marché avec lui, je m'occuperai de vos oiseaux, et je serai votre domestique, ce qui l'intéresse pas tellement, puisque lui c'est un solitaire. Et en échange, il lui paye les quelques pièces d'argent qu'elle vaut pour sa tranquillité, pour ne pas être achetée par le baron. Et de ce premier pacte découlera une histoire entre ces deux personnages, qui n'est pas une histoire d'amour, mais qui est une histoire de relation forte, hein, entre jeune fille et un homme plus âgé, de respect mutuel, mais aussi de personnalités complètement à l'opposé, puisqu'on a un homme qui revient de la guerre, qui est dépressif, qui est alcoolique, qui est très solitaire, et une jeune femme pleine de vie qui a envie, en fait, qui n'a pas envie d'être l'esclave de personne, et qui est amoureuse, qui a envie de plein de choses, qui adore la vie. Et c'est pas toujours facile de vivre avec un dépressif alcoolique. Mais finalement, elle lui fait du bien à ce monsieur, et réciproquement. Ouais. Et c'était quoi ton autre question?
Présenter Darendal un petit peu. Oui, tu l'as un petit peu fait du coup dans la relation avec Maura, en fait.
Oui, voilà, c'est Daran, un guerrier qui revient, un guerrier qui vient de ce village, qui est parti à 16 ans parce qu'il a crevé l'œil de son père, ce qui se fait pas trop, et qui s'est enfui, qui s'est engagé dans l'armée à ce moment-là, et qui en revient, parce qu'il y a eu une guerre civile il y a 10 ans, qui revient beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, avec une grosse hache, et surtout avec un cheval dont les soutes sont, enfin la selle est bourrée de pièces d'or, ce dont heureusement les villageois ne se rendent pas compte tout de suite, et qui ne raconte rien de sa vie de soldat. Tout ce qui l'intéresse, c'était de retrouver la femme qu'il aimait quand il est parti, dont il découvre qu'elle est morte. Donc il se réfugie dans la solitude, et je crois que je l'ai déjà dit, hein, l'alcoolisme et la dépression. Voilà.
C'est un personnage qui a vraiment un conflit interne très important d'Arendal, non ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce personnage, il s'en veut. Il a énormément de rancœur et de culpabilité, puisqu'il est parti, certes il était un peu obligé quand même, il avait la milice aux fesses, mais il est parti en abandonnant la femme qu'il aimait, et dont il apprend... Non, je ne vais pas le dire.
David Brie, est-ce que cette question de l'accord ou du marché, est-ce que ça fonctionne aussi dans votre texte ?
C'est l'un des sujets au cœur du texte, mais je ne peux pas trop en parler sans révéler la fin. Mais après, c'est toute la question du pouvoir. Le pouvoir, c'est un accord. Et qu'est-ce qui se passe quand les différentes parties ne sont plus d'accord entre elles ? C'est là où naît le conflit. Donc je peux pas m'étendre là-dessus, sauf si certains d'entre vous ont lu le roman, pour en parler après avec plaisir. Mais la notion d'accord et de la fin de l'accord déclenche le conflit, et c'est ça qui ébranle un monde, et c'est ça qui, en l'occurrence, dans le cas de Que passe l'hiver, va ébranler toute cette clairière qui est pourtant un monde apaisé depuis des siècles, où les conflits sont rarissimes, mais seules les légendes parlent de conflits entre les clans. Et du coup, c'est une ambiance très très feutrée, où il n'y a même pas d'agressivité. Sauf qu'il se trouve qu'à un moment donné, les choses vont changer.
Votre personnage, c'est un personnage innocent, on va dire. Un personnage jeune, innocent, c'est un peu le narrateur idéal pour nous parler de conflits.
Stig, c'était le personnage idéal par son innocence, oui, mais sa jeunesse et son innocence. Que passe l'hiver, c'est un roman qui décrit un peu le passage à l'âge adulte de Stig. Le passage à l'âge adulte, et c'est très lié à la thématique, c'est un ensemble de conflits. Enfin, à mon sens, un ensemble de conflits. Que passe l'hiver, c'est pour moi, j'ai voulu l'écrire comme une tragédie. Une tragédie, c'est quoi ? C'est une pièce de théâtre dans laquelle on pose un décor. En l'occurrence, c'est la clairière, qui est un monde très apaisé, comme je disais. Et où ensuite, on pose les conflits. Les conflits peuvent être de pouvoir, et c'est le cas, même s'ils sont cachés, on comprend pourquoi à la fin. On a aussi des conflits familiaux. Stig et son père ne s'entendent absolument pas, et comme j'ai dit, le père de Stig le méprise ouvertement, et du coup, comment est-ce qu'on surmonte ce conflit quand on est un jeune homme innocent et qu'on doit devenir adulte ? Il y a des conflits aussi amoureux, où forcément, quand on devient adulte, on découvre l'amour avec tous les sentiments qui vont avec. Il y a aussi des sujets de trahison, d'amitié. Effectivement, Stig était le personnage idéal pour ça, parce que Stig arrive à la fête du solstice avec tous ses rêves, toute sa jeunesse, toute son innocence, et tout son optimisme, et aussi tout ce qu'il a transformé pour qu'il devienne optimiste, son pied beau, sa souffrance. Et comme je disais tout à l'heure, il a transformé tout ça. Les événements qui vont se dérouler durant les cinq jours durant lesquels se passe le roman vont profondément le transformer. C'est un voyage intérieur. La Claria va être bouleversée et Stig va être bouleversé. Et ce jeune homme innocent va finir cette histoire en n'étant plus le même. Je dis souvent que Stig, en effet, perd son innocence. Et quand on passe à l'âge adulte, il y a un truc que je trouve extrêmement touchant et extrêmement important. C'est quand on devient adulte, c'est pas quelque chose qui est forcément évident. Et ça parle de qu'est-ce que l'on accepte de perdre de l'enfance. Et je pense, alors peut-être pour ça que je suis auteur, mais je pense que quand on perd des choses de l'enfance, c'est quelque chose qui est très douloureux. Qu'est-ce que l'on accepte de perdre ? Mais surtout, qu'est-ce que l'on refuse de perdre ? Et moi, c'est quelque chose que je trouve fondamental. C'est que quand on devient adulte, il y a des choses qu'on doit laisser en effet. Mais il faut se battre pour en garder certaines. Et c'est pour ça que je trouve que le personnage de Stig, c'est pour ça qu'il me touche beaucoup. C'est qu'il perd beaucoup de choses. Le pauvre garçon, il s'en prend dans tous les sens. Mais il tient. Il tient parce qu'il croit à certaines choses du plus profond de son cœur. Et c'est ça qu'il va garder. Et du coup, c'est ça qui fera de lui l'adulte qu'il deviendra peut-être.
Merci. Camille Le Boulanger, quel type de narrateur est Beltram, votre baladin ? Est-ce que c'est un personnage innocent ? Est-ce que c'est un enfant des rues au départ ? Alors, bon, déjà, on a un peu du mal à croire qu'il soit aussi innocent que Stig.
Alors, bon, déjà, c'est pas un narrateur, puisque le personnage est pas. C'est pas lui qui raconte. Hein. On a un narrateur qui est quasi omniscient, on va dire. Beltram, c'est pas un innocent du tout. Moi, si je dois définir le personnage, c'est bon, déjà c'est un personnage qui est un peu plus âgé, hein, c'est pas un jeune, c'est pas quelqu'un qui est dans l'accession à l'âge adulte. Tout ça a déjà eu lieu. Et moi, je le définis comme un loser magnifique. C'est-à-dire que c'est un mec qui a une certaine idée de lui-même, qui se prend pas pour rien. Et qui s'attend à être traité d'une certaine manière et qui s'attend à ce que les choses se déroulent d'une certaine manière quand il est là, puisque c'est pas n'importe qui, c'est Beltram le baladin, il a l'habit qui va bien, l'instrument qui va bien, etc. Et du coup, le fait de la mise en conflit de ça, c'est-à-dire que dès le départ, finalement, on lui enlève son instrument, du coup, il est plus tout à fait Beltram le baladin, puisqu'il n'a pas son instrument pour le montrer, puis son talent, etc., pour exprimer son talent, pour exprimer machin. Et du coup, toute la question du personnage de Beltram, c'est qui je suis en dehors de ma fonction sociale, entre guillemets, et qui je suis en dehors de ce que je prétends être. Puisque sans rien dévoiler de l'intrigue, il se trouve que le personnage principal n'est pas tout à fait qui il a tendance à dire qu'il est. On ne connaît pas grand chose de lui au fur et à mesure et ça se construit, hein, on a des révélations au fur et à mesure du bouquin. Et si on, c'est vrai que si on est en ayant ça à l'esprit, en lisant le bouquin, on peut se rendre compte que tous les autres personnages, donc son nom, on a un personnage d'un truand dans la ville, dans une des villes, on a un personnage d'un garde qui voudrait être musicien, on va avoir un personnage d'une fille noble qui voudrait être musicienne, qui a le talent, mais qui, dont sa position sociale ne lui permet pas de le faire. En fait, tous les personnages, finalement, sont des aspects de lui. Tous les personnages du bouquin sont construits autour d'une facette, sont une clé pour le personnage de Beltram, qui, lui, globalement, est quelqu'un d'assez égoïste et qui, on va dire, je l'espère, à travers le roman, apprend à l'être un peu moins et à considérer un peu plus le monde autour de lui, quoi. Voilà. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à la question.
si, sur la façon de... Et au niveau de sa trajectoire, alors du coup, il va apprendre des choses sur lui-même qu'il n'avait peut-être pas forcément envie d'apprendre, mais est-ce qu'il va y avoir des choses positives, on va dire, dans cette évolution ? Ouais, c'est ce qui est positif pour nous, on va dire, mais peut-être pas pour lui.
Oui, déjà, il y a la construction, la relation qu'il construit avec le personnage de son nom, qui est une personnage construite, comme on disait tout à l'heure, sur une relation construite sur un marché qui va devenir un peu plus que ça, un peu plus que le respect institutionnel presque que son nom peut lui accorder en tant que c'est pas n'importe qui, c'est Beltram le baladin, on le connaît, voilà, il lui arrivait ça, on a des légendes autour de lui, quoi. On a quand même une relation qui va se construire, pas une relation amoureuse pour le coup non plus. Effectivement une relation, j'ai envie de dire, d'égal à égal, et pour moi son nom c'est vraiment un personnage de quelqu'un de très pragmatique, pour le coup, et qui, en gros, lui met le remet un peu dans le droit chemin quand il déconne vraiment trop, quoi. Voilà. Donc on a un personnage qui peut-être apprend à être un peu moins loser et un peu plus magnifique peut-être au fur et à mesure du roman.
Aliette de Baudard, pourquoi avoir choisi Philippe comme narrateur? Parce que c'est un personnage très secret en fait, plutôt que Isabelle, la jeune déchue qui découvre notre monde.
Parce qu'en fait j'ai essayé. Originalement le roman était en fait construit autour de donc Isabelle en fait qui est l'ange déchu dont la chute ouvre le roman, donc elle tombe dans les grands magasins et les maisons se précipitent pour recruter un nouveau membre et c'est Philippe qui la trouve en premier et ils ont en fait un lien entre eux qui est un petit peu spécial, enfin il a essayé de la blesser et il a bu son sang et ça crée entre eux un lien qui est très fort et que la maison essaye de casser au fur et à mesure que Isabelle on va dire quelque part grandit, enfin elle arrive sur Terre déjà adulte mais dans un état effectivement de complète innocence parce que bah, elle sait pas trop qui elle est, comment ça marche et c'est vrai que quelque part ça aurait été le personnage fabuleux pour permettre au lecteur de découvrir ce monde en même temps que Isabelle. Le seul souci, c'est que il s'avère que les personnages qui sont complètement amnésiques, qui n'ont aucun souvenir de où ils vont et qui quelque part sont vraiment des tabula rasa, des feuilles de papier complètement blanches, et ben j'arrivais pas à l'écrire en fait. Donc du coup, je me suis plutôt tournée vers un personnage comme Philippe qui en fait était supposé être quelque part le second rôle dans cette histoire et qui était supposé juste être son ami, la personne avec qui elle avait des relations. Un petit peu difficile, pas toujours, on va dire, consensuel ou très agréable, mais ils se challengeaient mutuellement dans leur vision des choses. Et donc je me suis plutôt tournée vers Philippe. Et la deuxième chose qui m'a poussée à me tourner vers Philippe, en fait, c'est que quand j'ai écrit donc, la chute de la maison aux flèches d'argent, donc, qui était vraiment quelque part qui est un hommage au gothique, au roman du 19e siècle, que j'ai lu quand j'étais enfant et que j'ai adoré, c'est quand même des romans dans lesquels les personnages qui ne sont pas blancs ont des rôles qui sont très secondaires et voire très caricaturaux de manière pas forcément toujours agréable quand on a les origines. Donc du coup ce que je voulais faire avec ce roman là c'est aussi quelque part centrer les histoires de ce type de personnages. Donc dans ce roman là et encore plus dans la suite, l'ascension de la maison Aubépine qui lui est vraiment focalisée en partie sur la communauté vietnamienne en France, comment elle s'est établie et comment elle fonctionne, c'est quelque part raconter l'histoire des gens comme Philippe qui sont des gens qui sont entre guillemets en dehors du système dans le sens où ils ont rien, ils ont pas de pouvoir, ils peinent même à se retrouver, à avoir des repères, à avoir des connexions avec les gens de par leur histoire, de par leur culture, et comment ces gens-là, quelque part, non seulement survivent, mais aussi prospèrent et construisent finalement leur propre vie, qui n'est pas forcément liée effectivement à l'exercice d'un pouvoir explicite, à combien de personnes ils ont sous leurs ordres, etc., mais comment ils arrivent à faire partie de communautés dans lesquelles ils sont estimés.
Paul, pourquoi avoir choisi Maura comme narratrice alors que Daranda, le grand héros, aurait été peut-être aussi un narrateur intéressant?
C'est vrai, j'ai vendu l'histoire de ce roman à mon éditeur en disant que ce sera l'histoire d'un grand héros avec une grande hache qui va libérer le pays. Et mon éditeur, c'est Stéphane Marsan chez Brangelonne. Il m'a dit vas-y, banco, ça m'intéresse. Et c'est pas du tout l'histoire que j'ai écrite finalement. J'ai pris l'histoire. À travers cette narratrice qui allait raconter l'histoire de Daran. Et finalement, ce qui m'intéressait, c'était la relation entre cette jeune fille et ce grand guerrier. Et donc, à la fin, Stéphane m'a dit mais au fond, tu racontes plutôt l'histoire de Maura que de Daran. Mais heureusement, on s'attache beaucoup à Maura. Je dis c'est une chance, c'est quand même mon personnage principal. Et ça sauve un peu ton roman. Ah, je suis content. Et donc, voilà, j'ai l'impression d'avoir un peu triché avec mon éditeur, mais il est content finalement. Il m'a dit oui, c'est une bonne histoire. Ce n'est pas du tout celle que tu m'avais racontée.
C'est un personnage très intéressant, Maura, parce qu'elle aussi, elle a des pouvoirs, en fait.
Voilà.
Sans trop en dire, mais...
Le pouvoir de Maura est celui des petits pouvoirs, en fait, hein, de ces petits sorciers de campagne qui ont un pouvoir qui vient d'eux-mêmes. alors que les rois ont un pouvoir qui vient de l'ensemble de leur peuple, hein, qui est beaucoup plus puissant. Et ça y est, j'ai dévoilé un truc important du récit. Et c'était quoi ta question ?
C'était non, sur le fait que Maora elle-même a des pouvoirs. Enfin, c'est pas un personnage. Désolée. Donc je disais que Maora aussi est un personnage qui n'est pas juste là pour raconter l'histoire de Dahan. Elle est là pour qu'on s'intéresse à elle, à sa trajectoire à elle, à sa découverte de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ne veut pas. Et donc ça, c'est aussi très très important dans le texte.
Ça me fait penser à ces deux personnes dont je ne me souviens plus du nom. Cette personne qui a gravi l'Everest pour la première fois, et cette autre personne qui a gravi l'Everest avec lui, qui était son coulis en fait, et on disait, on se souvient toujours de cette première personne, je ne me souviens plus comment il s'appelle, et jamais de cette deuxième personne, je ne me souviens plus comment il s'appelle non plus, parce qu'il était derrière lui, que c'était justement pas un blanc, et que il lui servait de porteur, parce qu'il était payé pour ça. Et Maora, c'est un petit peu ça, alors, c'est pas le porteur non plus, hein. Darandal est beaucoup plus costaud qu'elle, mais c'est le personnage dans l'ombre, celui qui fait que ce n'est pas le personnage que le grand public connaît. Et c'est le personnage qui est indispensable à la réussite de ces grands personnages. Et ça m'intéressait beaucoup plus, en fait, de parler de cette personne dans l'ombre qui est toujours là quand il faut, qui a les bonnes idées, qui soutient moralement Darandal et qui construit sa légende peu à peu, alors que peu de gens la connaissent. Mais c'est un personnage beaucoup plus intéressant, non ? Qui nous ressemble plus à nous.
Tout à fait. Et en plus, la majeure partie de l'histoire, c'est Maora dans les geôles et elle se laisse pas abattre. C'est ça qui est intéressant aussi.
Voilà, le légendier qui va, le conteur qui va l'interroger, au départ, ne la connaît pas. Mais il a étudié les dossiers, c'est quand même quelqu'un de très consciencieux. Il dit, je pense que vous êtes la personne la plus à même de parler de Darandal, même si on ne vous connaît pas, parce que vous êtes sa première lieutenante. Je me suis renseigné sur vous. Vous le connaissez depuis des années, vous avez vécu avec lui pendant des années. Et finalement, il va se rendre compte que ce personnage a une importance bien plus grande qu'il ne l'imaginait. Et à tel point que ce qu'il n'imagine pas, c'est qu'elle utilise ce sursis pour creuser un trou dans sa cellule et, toutes les nuits et préparer son évasion pour reprendre la lutte et redevenir l'égérie de la révolte. Alors, c'est un but je ne sais pas si elle va l'atteindre ou pas. Mais effectivement, il finit par comprendre peu à peu l'importance de ce personnage et l'importance du fait que Darandal n'était pas tout seul, il avait tout un groupe autour de lui et que chaque personne comptait.
Et ce qui est aussi très intéressant, parce qu'on dit que l'histoire est faite par les vainqueurs, ce qui est très intéressant dans notamment deux de vos textes, c'est la question de la postérité. Donc avec le légendier qui ne peut pas mentir, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce personnage, parce qu'il est vraiment aussi fondamental dans Calame.
Alors le légendier, il est affublé d'une malédiction. À chaque fois qu'on lui ment alors qu'il interroge quelqu'un, il a la main qui commence à saigner. Et c'est lui très désagréable et il le sait tout de suite. Et quand on lui cache quelque chose, c'est l'autre main qui se met à brûler, ce qui est aussi assez désagréable. Alors il admet que ses témoins lui brûlent un peu la main droite, puissent lui cacher des choses, mais pas que sa main gauche se saigne. Ça, par contre, à partir du moment où quelqu'un lui ment, il interrompt l'entretien et dit je ne vous interrogerai plus. Et quand on n'est plus interrogé, on est exécuté. Donc,
Et le roi a besoin de cette personne justement pour renforcer aussi sa légende, du coup.
Alors le légendier est aussi la personne qui a écrit autrefois la légende du roi lui-même. On peut subodorer que certains éléments de cette légende ne sont pas tout à fait exacts, puisque la légende étant écrite par les vainqueurs, même si ce légendier ne ment pas et détecte le mensonge, il ne sait pas forcément tout. Et là, le roi veut réécrire la légende de Darandal et il a l'impression que les gens aiment beaucoup ce personnage parce qu'ils ne le connaissent pas. Et que quand on connaîtra tous ses petits travers, son image sera ternie. Voilà. En même temps, il y a un jeu avec un autre contre-pouvoir qui est l'Église, et qui cherche au contraire à renforcer l'image de Darandal pour que la révolte continue, parce que l'Église n'a pas du tout envie de se retrouver avec le pouvoir absolu du roi sans la révolte pour le maintenir. Et donc on a une lutte d'influence. La postérité de Darandal, qui est mort, hein, qui ne peut plus se battre, devient plus importante que ce qu'il a fait par le passé, en réalité.
Chez vous aussi, Camille Le Boulanger, la question de la postérité est importante, puisque c'est un baladin, donc il est là aussi pour, d'une certaine façon, pour raconter l'histoire, mais pour la faire aussi en la racontant.
Alors oui, en effet, doublement. Doublement d'une part parce que effectivement, ce sont des musiciens qui traversent le pays, qui voilà, sont chargés de d'être la mémoire de ce monde. D'ailleurs, on a des personnages qui sont très 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 secondaires, même, je dirais même tertiaires, qui sont appelés, qui s'appellent des mémoires carrément. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont plus de soi en fait, et qui sont dévoués à entendre et à enregistrer et à répéter, puisqu'on n'a pas le papier. Donc la question de la mémoire et de la postérité est extrêmement importante, et aussi parce que c'est aussi la question de la légende de Bertram le Baladin. Hein, voilà, qui c'était Bertram le Baladin, la célébrité. Bon, c'est un peu une parabole autour de la rockstar quand même, un petit peu à la base, quoi. Parce que c'est l'histoire d'un mec qui est bon à la guitare et qui aime ça et qui aime le montrer. Donc on a cette parabole-là. C'est toujours, il faut qu'on se souvienne de Bertram le Baladin. Et c'est extrêmement important pour le personnage. Et il va même être mis dans une situation à un moment où il va être en péril personnel. Et son point de négociation, ça va être alors, si vous voulez, vous me faites disparaître, pas de problème, mais juste avant, laissez-moi faire les choses pour qu'on se souvienne de moi et pour que je puisse transmettre. Puisque dans cette guilde de musiciens, il y a la question du maître et de l'apprenti. Hein, le maître, celui qui va récolter tout, hein, toute sa mémoire, toutes ses chansons, etc., va les transmettre à son apprenti. Et comment est-ce qu'on transmet, comment est-ce qu'on transmet ça ? La question, ça va être aussi, Bertram, comment est-ce que lui a appris ? Qui est un élément important du roman. Donc il y a voilà, cette question de la postérité et aussi de, voilà, de se souvenir de quel pouvoir... possède cette postérité. Encore une fois, souviens-toi de moi, j'ai un nom grâce à toi, on peut se souvenir de moi puisque toi, tu as vu qui j'étais. Donc on a tout cet écheveau presque hein, de liaison de mémoire voilà, entre les personnages, finalement.
Aliette de Baudard, vous nous avez parlé donc du fait que c'était une sorte de rétablissement de la mémoire, et notamment de la mémoire coloniale ou anticoloniale, par rapport à votre texte. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet ? Sinon, oui.
J'étais sur ce sujet de la mémoire coloniale. Moi, j'ai été particulièrement frappée par... c'était un sondage, je crois... pendant l'élection présidentielle donc de 2016, où la question était est-ce que la France avait commis des exactions pendant et des crimes contre l'humanité pendant la colonisation, et où globalement il y avait à peu près 60 à 70% des gens qui pensaient que non, tout allait bien. À l'époque, j'étais en train de faire des recherches sur le monopole de l'alcool au Vietnam et les famines. Et c'était quand même assez criant la différence, donc d'une part entre une administration coloniale qui considérait, alors je vais surtout focaliser en fait sur l'histoire du Vietnam parce que je connais pas suffisamment bien l'histoire des autres colonies pour pouvoir en parler avec suffisamment de certitude. C'est quand même très frappant que bah, foncièrement le Vietnam était considéré comme quelque chose qui devait rapporter de l'argent quoi qu'il arrive. Ils ont établi un monopole de l'alcool qui était franchement un torboyau, hein, qui était produit par Calmette, et j'ai oublié quelle était la deuxième personne, Saros, c'était le directeur, bref. Qui vendait à prix fort aux locaux, si les locaux étaient ruinés au passage, c'est pas super grave. Pareil avec le riz, non plus c'est pas grave s'il y a des famines dans le pays. Et c'est que des choses qu'on a tendance quand même, je pense particulièrement aux cours d'histoire qui sont enseignés en école et en université, qu'on a tendance à glisser sous le tapis. Et je me souviens, pareil, avec une certaine, un certain agacement maintenant, d'avoir quand même fait une dissertation sur est-ce que la colonisation a été une bonne chose, et où on était très fortement encouragé à dire que si, il y avait eu des constructions de lignes de chemin de fer. Ok, c'est gentil, merci beaucoup pour le chemin de fer, mais en attendant, ça n'a quand même pas laissé des traces qui ont été absolument splendides. Donc je pense, quelque part, ce que j'essaie de faire avec ce roman, c'est... je suis très consciente du fait que je ne vais pas changer l'histoire. Par contre, ce que je voudrais faire, c'est faire en sorte que l'histoire... On a beaucoup parlé de l'histoire qui était écrite par les vainqueurs, et je refuse de continuer à écrire l'histoire des vainqueurs. Et je voudrais parler des gens dont on ne parle pas de l'histoire, et c'est à leur tour de raconter ce qui leur est arrivé à eux.
David Brie, sur la question de la mémoire, de la postérité, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Alors il y a deux sujets là-dessus, donc passe l'hiver. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, l'histoire qui est contée, l'histoire séculaire qui est contée et qui est transmise. Après, la postérité, c'est tout l'enjeu de Que passe l'hiver. Que passe l'hiver, c'est un monde où les mêmes choses se reproduisent depuis des siècles. Et à un moment, on va vouloir que peut-être les choses changent. Sauf que pour les changer, ça se fait pas comme ça. En tout cas, pas dans ce monde-là. C'est pas un vote, c'est pas quelque chose qui se fait. C'est pas une décision commune. Il faut que ça passe par la violence. Et du coup, la postérité, c'est de quoi on se souvient, mais c'est aussi qu'est-ce qui se passe après. Et là, pour le coup, c'est tout l'enjeu de ce roman. C'est le monde va être bouleversé comme jamais il l'a été. Et qui va détenir le pouvoir d'écrire le monde qui va suivre, le monde qui va renaître de ce monde-là. Et c'est vraiment tout l'enjeu. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de l'innocence de Stieg, mais c'est aussi l'innocence d'un monde. Stieg, comme la clairière, vont passer à une autre étape qui se fait forcément avec de la violence. Et celui, celle ou ceux qui écriront ce monde et qui définiront cette postérité le feront à leur image. Et du coup, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que l'on veut mettre comme empreinte à ce monde-là.
Alors, j'ai une dernière question pour tous nos auteurs. Quand est prévue la suite ? S'il y a une suite, c'est pas non plus...
Moi, ça va être plus simple. Pour l'instant, il n'y a pas de suite. Alors, on D'accord. pose souvent la question de est-ce qu'il va y avoir une suite ? Alors, moi, j'aime pas trop les trucs à rallonge parce que je pense que je suis pas bon là-dedans, tout simplement. Cela dit, comme on pose souvent la question que je suis un auteur gentil et que plus sérieusement que Passé Vert, c'est un roman qui m'a beaucoup touché. C'est des personnages qui m'ont beaucoup ému. Une histoire à laquelle je tiens beaucoup parce qu'il y a des sujets qui me tiennent à cœur. Du coup, on réfléchit avec mon éditeur, puis ça sera en fonction aussi du succès du roman à faire une suite. Et moi, l'idée que j'avais à la base, c'était de présenter les quatre âges de Stieg. Stieg, jeune homme, avec ce passage à l'âge adulte. Stieg, ensuite, homme jeune, avec la fougue de la jeunesse. Stieg, en homme mature. Et ensuite, Stieg, vieillard. Et je pense que l'idée que j'en ai, c'est de montrer toute l'évolution et la révolution d'un monde à travers les yeux d'un jeune homme et d'un homme qui ne veut pas lâcher. Et c'est cette histoire-là qui me touche. Donc, peut-être que c'est que le début de cette histoire. Bon, je ne sais pas.
On vous le souhaite. Paul Béorn, la suite de Calame, c'est pour quand ?
Alors d'habitude, je dis qu'il n'y a pas de suite parce que je fais toujours des one-shots. Mais là, justement, il y aura une suite puisque ça s'appelle Thomas. Je ne peux pas cacher que... il y aura quelque chose d'autre. Mais ce sera un tome 2 et on s'arrêtera là, normalement. Même si au départ, j'en avais prévu 3, mais voilà, je reviens toujours à mes premiers amours. Un tome 2, c'est quand même plus proche d'un one-shot qu'un tome 3. Voilà. Et pour quand, j'espère le terminer très vite et pour une publication en 2019.
Merci. Aliette de Baudard, vous nous avez dit qu'il y aurait des tomes suivants. Vous savez déjà un petit peu combien et quand ?
Alors, il y en a un, c'est facile. La censure de la maison Aubépine, qui est le tome 2, est sorti en janvier. Et donc, pour le tome 3, par contre, comme je suis en train de l'écrire, c'est plus un point d'interrogation.
Mais le tome 2 est sorti en français ou en anglais ?
Non, en français.
Ah, pardon.
Il est sorti, il vient de sortir, même chez Outre-Fleuve, dans le même format. D'accord.
Camille Le Boulanger, one shot ou pas one shot ?
One shot pour l'instant. Disons qu'il est possible qu'il y ait une suite. Un jour peut-être. C'est pas dans les tuyaux maintenant. Je suis pas très série. J'aime bien la concision. Mais il est possible qu'un jour je fasse Robert Trapp. C'est possible.
Eh bien, on vous souhaite une longue postérité, hein, vu la thématique. Et vous pouvez bien sûr retrouver nos auteurs sous la bulle du livre. Merci à toutes et à tous.